Il est temps de retrouver donc notre invité du jour, Benjamin Bougis, et sur notre antenne, Benjamin Bougis, préparateur mental, s'est lancé un défi, la grande traversée des Hautes-Alpes à partir du 28 septembre. Restez à l'écoute, c'est tout de suite. Nothing is over. Benjamin Bougis, bonjour.
Oui, bonjour, merci de me recevoir.
Eh bien, je suis ravie, vous êtes dinois.
Alors, je suis né en Normandie, en fait, mais je suis arrivé à Digne quand j'avais même pas un an, donc
voilà,
quasiment dinois.
Presque, ouais. Presque dinois. On vous connaît pour être un grand sportif. On va revenir à ce parcours avant de venir à ce... Ce qui vous amène aujourd'hui, c'est donc nous parler, bien sûr, de cette grande traversée des Hautes-Alpes en 72 heures. Vous nous en parlerez plus en détail tout à l'heure, mais vous avez un palmarès d'exploits en parapente. Enfin, on va parler de toutes vos passions sportives.
Oui.
Vous avez commencé dans un domaine très différent, la danse classique, c'est ça?
Alors, ça part de l'âge de 6 ans, effectivement, où j'ai fait de la danse classique pendant, je crois, 8 ans. Puis il y a plein d'autres choses à côté du sport, comme du trombone à coulisses, du tennis de table, les beaux-arts, etc. Donc tout plein d'activités. Et donc j'ai commencé avec la danse classique jusqu'à l'âge de 14 ans. Et ensuite, un ou deux ans après, j'ai enchaîné avec de l'athlétisme pendant 3 ans, donc à l'Athletic Club Dinois. Et puis ensuite, je me suis engagé dans l'armée où je courais très souvent, je faisais des semi-marathons, je me suis mis au trail. Donc effectivement, j'ai toujours été sportif, on peut dire, donc depuis tout jeune, oui.
Et puis là, votre passion, c'est plus le parapente, enfin non, il y a aussi l'escalade, l'alpinisme.
Alors c'est plutôt l'alpinisme, j'en ai fait peu cette année. Mais donc c'est l'alpinisme, principalement le parapente. Donc voilà tout ce qui touche au sport de montagne et au parapente. Donc je suis passionné de parapente. Depuis tout petit, il y avait les championnats du monde, la Coupe du Monde à Digne en 1991. Et je me souviens, j'étais fasciné par ce sport qui était peu médiatisé et qui l'est toujours assez peu. Et donc j'ai commencé le parapente en 2001 avec quelques années de pause parce que j'avais pas trop le temps avec le travail. Donc en fait voilà, principalement passionné par le parapente et je vole tous les jours où je peux voler, voilà, je vole. Donc ça tourne à peu près 200 vols par an en moyenne.
Alors j'imagine qu'il faut... vous êtes jamais fait mal ?
Je me suis déjà fait mal, j'ai jamais eu de gros accidents pour l'instant. Le parapente, le parapente ça pardonne quand même beaucoup. Je me suis fait des petits bobos, comme des égratignures, etc. Bon, une cheville un petit peu foulée, ça m'est arrivé dans les débuts, voilà, des petites erreurs, j'ai envie de dire, de débutant, quand on a des lacunes qu'il faut combler au début.
Donc ça s'apprend avec un entraîneur, enfin, comment, un moniteur de parapente ?
Tout à fait, donc en école. Donc en fait, à savoir que c'est du vol libre. Donc on est libre de faire ce qu'on veut. J'ai envie de dire, on est libre de se tuer comme on veut aussi. C'est-à-dire qu'en fait, le parapente, moi, je ne le considère pas comme un sport extrême. Ça peut être extrême, parce qu'on peut faire des figures de l'acrobatie, comme François Ragolski, qui est dinois, d'ailleurs, qui était champion du monde. Mmh. Voilà. On peut faire des figures, etc., où là, c'est assez impressionnant. Moi, ce n'est pas mon domaine. Je suis surtout axé sur le vol montagne. Mais c'est bien d'apprendre, enfin, c'est fortement conseillé, voilà, d'apprendre en faisant un stage d'initiation auprès d'une école de parapente. Un stage d'initiation qui dure à peu près une semaine. Et en général, dès le troisième jour, on peut faire notre premier grand vol accompagné en radio avec quelqu'un. Et ensuite, il est préconisé de faire un stage perfectionnement ou alors de voler, de se rapprocher d'un club, par exemple, et de voler accompagné d'anciens. Et dans de l'air calme le matin, voilà, ça se fait petit à petit. Donc en fait, c'est facilement accessible, mais c'est vite dangereux aussi si on fait pas attention, parce que l'après-midi, par exemple, il y a des turbulences, etc. C'est des vols complètement différents.
Ah oui, il faut bien connaître les vents et toute la sécurité, enfin, voler le plus en sécurité possible.
Oui, voilà, alors il y a de la réglementation. Il y a la météo à connaître, l'aérologie, c'est très très important. Et tout ça, on l'apprend, voilà, c'est avec l'expérience, au fur et à mesure, à force de faire et refaire, d'avoir de l'expérience, on connaît, tous les sites sont différents, tous les jours sont différents aussi, hein, les vents sont jamais pareils, les thermiques ou pas, les nuages, c'est vraiment, on progresse tout le temps en parapente, c'est infini. Ouais.
Est-ce qu'il y a des lieux où c'est interdit
Oui, alors on a des zones en réglementation, voilà, on le voit, on a des zones qui sont interdites, comme par exemple si vous volez vraiment trop haut, ben en fait, ça peut arriver, hein, vous vous retrouvez à la hauteur d'avions de ligne, ou à certains endroits proches d'aéroports ou d'aérodromes, etc. Donc on a des zones restreintes, effectivement, il y a une réglementation, une loi, comme un peu partout, et ça c'est un peu partout dans le monde. Mais globalement, là, par exemple, là, sur Digne, on peut voler sur plusieurs sites, comme le sommet de l'Andran, le sommet du Cousson, Villevieille en dessous, Courbon. Donc, il y a pas mal de sites qui sont accessibles. Et c'est vraiment sympa.
Alors, quelquefois, j'ai envie de demander, moi, par rapport... quelquefois, il y a beaucoup, beaucoup de parapentes qui volent en même temps. Est-ce qu'il y a des risques quand on passe trop près
Oui. Alors... J'ai envie de dire que c'est comme en voiture, voilà, il y a un code de la route, c'est pareil en l'air, dans le vol libre, donc en général, voilà, il y a des règles de priorité, en général, on fait preuve de bon sens et puis c'est automatique. Alors au tout début, on est un peu timide, hein, quand on vole, on n'ose pas trop se rapprocher du relief, etc., mais en fait, quand on est en bas, on voit les gens dans le ciel, on a l'impression qu'ils sont proches. Et en fait, en général, avec l'effet d'optique, en fait, il y a assez de distance, le ciel est assez grand. Donc c'est vrai qu'en général, pour prendre les thermiques, etc., on va longer le relief. Et en fait, en général, bah, par exemple, c'est la personne qui a le relief à droite qui est prioritaire. Donc si je croise cette personne-là, moi, je m'éloigne. Mais en fait, c'est... Si on fait preuve de bon sens, donc c'est sûr qu'il y a un risque, mais si on fait preuve de bon sens, tout va très bien. C'est comme en voiture, en fait.
Alors, est-ce qu'on peut revenir sur vos exploits
Alors des exploits, je sais pas, des aventures, des petits
des
défis
aventures,
sportifs,
ouais.
Effectivement. Mmh. On peut partir il y a quelques années où j'ai vraiment commencé à faire du parapente, du vol montagne. C'était à partir de 2016, on va dire, fin 2015, début 2016, où j'ai fait pas mal de sommets à plus de 3000 mètres en Haute-Ubaye. Vous savez qu'il y en a, beaucoup. La Haute-Ubaye, c'est donc au-dessus de Barcelonnette. C'est vraiment un endroit que j'affectionne particulièrement. Et donc là, j'ai décollé de pas mal de sommets à 3000, dont des sommets on va dire difficile d'accès, où il faut aller en alpinisme, etc. Des sommets un peu engagés, avec des cailloux assez saillants, des décollages courts, voilà, c'est ce que j'aime bien faire. Donc là, on ne parle pas de distance en parapente, on parle juste de descente après, voilà. Donc en air calme, donc après une course d'alpinisme ou une grosse randonnée, avec pas mal de dénivelé. Et puis, je suis vite arrivé à faire des sommets à plus de 4000 mètres, donc comme le Mont Blanc du Tacu, deux fois en 2016, il me semble. Donc à un peu plus de 4200 mètres d'altitude, donc là c'est du paralpinisme, hein, en crampons piolés, voilà, en partant de Chamonix. Et ensuite j'ai décollé du Mont Blanc en 2018, donc après l'avoir gravi, donc par la voie normale, hein, et donc à 4810 mètres d'altitude, et un cycle Breithorn en Suisse à 4300 mètres d'altitude. Donc ça fait quelques sommets, voilà, j'arrive à lier la montagne et le parapente qui sont mes deux passions, et c'est formidable.
Et alors, le Mont Blanc en parapente, c'est quelque chose qui est courant,
alors,
qui est pratiqué
Oui, c'est quand même courant. Après, c'est sûr que c'est pas non plus accessible à tout le monde, parce qu'il faut...
Faut un bon niveau.
En parapente, pas forcément. Enfin, après, là-bas, le vent est souvent fort, forcément. Mmh. On est en altitude, donc on va dire que 20 km/h en temps normal sur des sites, etc., on peut dire que ça commence à être alimenté. Pour certaines personnes, ça fait beaucoup, une vingtaine de kilomètres heure. Au Mont Blanc, on a rarement moins. Donc c'est sûr qu'il faut avoir quand même un certain bagage pour y décoller en toute sécurité, parce que il y a des crevasses juste en dessous, etc. Et puis surtout un bagage montagne aussi, mais que ce soit dans les deux domaines, en montagne au final, c'est pas tellement technique, mais ça dépend des conditions, de neige, de météo, etc. Et en parapente, c'est pas tant technique non plus. Donc il faut un minimum dans les deux domaines, en fait.
Ce qui vous a amené à ces sports quand même de haute montagne, est-ce que c'est un goût de la solitude, un goût de la performance, un goût de la nature? Qu'est-ce qu'elle est les...
Eh bien, vous l'avez bien résumé, c'est un peu des trois.
Ouais.
Effectivement, je suis un peu, donc même si j'aime bien partager le vol, que ce soit avec ma chérie ou avec mes amis, en fait, j'aime bien être souvent seul en nature, justement. Ça me ressource, je suis bien. Donc j'ai ce côté solitaire, un peu sauvage, qui m'attire beaucoup. Et puis c'est vrai que j'aime bien me fixer on peut appeler ça des défis, des challenges. Et j'aime bien me dépasser, en fait, me dépasser physiquement, surtout mentalement. Donc c'est pour ça que j'en suis venu après à la préparation mentale. Et donc c'est vrai que j'aime bien cette solitude. Ben, c'est nécessaire à mon équilibre, en fait.
Et ça ne vous empêche pas. Donc, est-ce que vous avez deux filles? Est-ce que vous les sensibilisez à la nature, au sport de montagne également?
Oui, mes deux filles. Alors, si je peux me permettre, je leur fais un bisou à toutes les deux, à Siloé et Nora, 10 ans et 8 ans. Voilà, donc je sais qu'elles m'écoutent. Papa vous fait un bisou. Je les sensibilise, voilà, à la nature, à la montagne. On fait des randonnées de temps en temps. Alors parfois, ça râle un peu, ça grince. Ça dépend des moments. Mais bon, elles aiment bien ça. Et puis la petite a bien voulu voler en biplace avec moi. Donc je lui ai fait un biplace il y a quelques mois.
Ah.
Et on a pu partager ça entre père et fille. Donc c'est vrai que c'est formidable. Et puis j'aimerais bien transmettre, que ce soit la montagne ou le parapente. Si elles le souhaitent, j'aimerais bien leur transmettre, effectivement.
Et transmettre à d'autres, ça vous intéresserait aussi ou...
Alors, en tant qu'amateur, hein, avec les copains, c'est vrai qu'il m'est arrivé de ces dernières années de faire un peu la progression, mais j'ai surtout pas la prétention d'être moniteur. J'y avais pensé, finalement c'est un budget, puis je préfère garder ça comme passion. Mmh. C'est vrai que ça m'a traversé l'esprit il y a quelques années, j'avais envie de passer le DEGEPS. Finalement, c'est pas ce qui me correspondrait professionnellement, mais j'ai accompagné des amis donc qui se mettait au parapente, qui avait suivi un ou plusieurs stages et qui avait envie en fait de faire du vol montagne aussi, donc ici au Cousson, etc., sur des décollages basiques, et puis qui avait envie de progresser, d'apprendre, etc. Donc ce que les anciens m'ont transmis, j'aime bien aussi le transmettre aux plus jeunes. Au plus jeune parapentiste, hein, quel que soit l'âge. Et en fait, donc j'ai quelques amis qui s'y sont mis, dont Guillaume, qui maintenant est bien meilleur que moi en parapente, en distance, en cross, par exemple. Et puis, ça fait plaisir qu'on voit l'évolution des gens, etc. Voilà, c'est le partage, transmettre.
Alors, est-ce qu'on enchaîne avec votre nouvelle profession, si on peut pas appeler ça... Si, une nouvelle profession, préparateur mental. Alors ça, c'est quelque chose de tout nouveau que vous proposez maintenant. Qu'est-ce que ça veut dire ?
Alors, donc oui, c'est une profession pour moi. Pour l'instant, je ne l'exerce pas à temps plein. Donc j'ai une autre profession à côté. Je travaille de nuit aussi. Mais en fait, je suis arrivé à faire de la préparation mentale. Parce que justement, je faisais tous ces défis, le Mont Blanc, etc., tous les sommets en haute, bas, et un peu partout en Suisse, etc. Et j'ai écouté en fait cet ancien ultra-trailer qui s'appelle Stéphane Brognard, qui vient des Vosges en fait, qui est assez connu dans le milieu et qui maintenant a plutôt un profil aventurier. Donc j'écoutais un podcast en fait, donc moi je le connais, je le suivais depuis 2013-2014 à peu près, je connaissais le personnage. Et en fait, ça fait maintenant 4 ou 5 ans qu'il est devenu préparateur mental. Et ça m'a interpellé, je me suis intéressé à la chose. Et en entendant ce podcast, je me suis dit, pétard, mais en fait, c'est ça que je fais. C'est ça que je fais avant de décoller, etc. Ça fait partie de la préparation mentale, en fait. Donc, il a fallu juste trouver une méthode, etc. C'est la méthode que je n'avais pas. Et je me suis penché, je me suis intéressé à ce métier. Il y a quelques temps, et j'ai décidé donc de passer un diplôme, une certification que j'ai réussi, et donc je me suis mis à mon compte en tant que préparateur mental pour suivre que ce soit des athlètes de haut niveau, faire pourquoi pas plus tard des conférences, pour aussi faire des petits stages, etc., le transmettre à d'autres personnes, et pour soi-même c'est aussi très bien en fait. Et j'ai trouvé, ça m'a un peu débloqué sur certaines choses, je me suis rendu compte que j'étais pas très loin de la vérité, que en fait j'effectuais déjà de la préparation mentale pour mes vols, pour la montagne, etc. Donc voilà, et c'est assez, c'est vrai que c'est assez magique la préparation mentale.
Alors ça n'a rien à voir avec ce qu'on appelle un coach sportif.
Non, c'est pas ça. En général, on peut travailler donc avec des sportifs, on peut travailler aussi avec des cadres en entreprise, par exemple, avec des étudiants qui veulent passer un diplôme. Donc on peut travailler sur la gestion du stress, l'affirmation de soi. On peut travailler sur le discours interne, la concentration, donc sur pas mal de choses. Et en fait, c'est vraiment bien, mais c'est complémentaire dans le sport à un préparateur physique. On va dire qu'un athlète de haut niveau va avoir un ou plusieurs préparateurs physiques. Il va avoir un masseur, etc. Il va avoir aussi un préparateur mental. Maintenant, ça se fait de plus en plus en France. On est quand même en retard là-dessus par rapport à nos voisins européens. Et on en vient de plus en plus. Donc c'est pareil pour les sports en équipe, voilà, dans le football, etc. Et on voit que ça marche, en fait, que ça fonctionne.
Et oui, il faut pas uniquement les muscles. Il faut vraiment une bonne condition mentale. C'est hyper important pour se préparer même aux compétitions.
Voilà, c'est ça. Donc, en fait, je vais vous donner un exemple. Donc, ça peut être soit pour les compétitions, en fait, pour la progression, pour la performance. Ça peut être aussi pour le bien-être, c'est-à-dire pour un sportif amateur ou quelqu'un qui se met au sport et qui, admettons... Pour citer un exemple, quelqu'un qui n'a jamais couru de sa vie et qui prévoit dans l'année de faire un cross, une compétition de 10 km, voilà, ça peut être son objectif pour son niveau. Eh bien, je vais pouvoir aider cette personne-là à atteindre son objectif et à même changer de vie, en fait. Voilà, donc c'est vraiment formidable. Donc en fait, quand c'est en dehors du sport, on appelle ça du développement personnel. Et sinon, c'est la préparation mentale. Et en fait, c'est tellement vaste que ça peut faire penser par moment à de la sophrologie, etc. On a de l'imagerie mentale, des routines. On a tout un tas d'outils pour améliorer la performance ou le bien-être du sportif ou de la personne. qui, en fait, on va faire un suivi régulier ou pas selon l'objectif de la personne. Voilà. Donc, on peut corriger un manque de motivation. Voilà, on n'a jamais la même motivation tout le long de notre vie de sportif. Parfois, on ne sait pas pourquoi. On n'a plus envie d'aller en montagne ou de faire tel ou tel sport. On ne sait pas pourquoi. Eh bien, en fait, je vais aider les personnes là, donc à base de questionnaires à la base, et faire un suivi. Et puis, je vais cibler point par point ce qui ne va pas, les choses à corriger pour retrouver la motivation. Voilà.
C'est passionnant, c'est intéressant.
Tout à fait, c'est vraiment passionnant et je me régale et j'ai encore beaucoup à apprendre. Et c'est comme pour le parapente, je pense que la progression est infinie et c'est vraiment quelque chose de passionnant, complémentaire. Et je dirais que c'est vraiment essentiel maintenant dans le sport d'être suivi par un préparateur mental. Parce qu'on peut dire que, par exemple, dans un podium, par exemple, au plus haut niveau, dans un championnat du monde, je vais inventer, on va dire, en cyclisme, par exemple, les trois premiers vont avoir à peu près le même niveau, en fait, donc physiquement, etc. Et ben, maintenant, pour faire la différence, la personne qui est un bon préparateur mental, ça peut vraiment faire la différence. Voilà. Donc, on peut toujours progresser, même quand on est champion du monde.
Est-ce qu'on peut, grâce à une préparation mentale, mieux réagir si on échoue? Enfin, si, ça peut arriver, j'imagine aussi, qu'on ne soit pas toujours le premier d'une compétition, même en ayant été bien préparé. Est-ce qu'on accepte mieux si on était...
Tout à fait, c'est aussi le but. Alors, c'est sûr qu'on n'est pas tous faits pour être champion du monde. On peut, dans un circuit, même au niveau départemental, régional ou en tant qu'amateur, se fixer un objectif, ne pas le réussir. Et justement, le but de la préparation mentale, c'est aussi de pouvoir rebondir plus rapidement. Donc, en général, quand on se fixe des objectifs, par exemple, ce que je fais pour les sportifs, je fixe un objectif principal, un gros objectif. Donc, ça dépend de l'objectif. On va dire à long terme, à moyen terme, à court terme. Et on fixe plusieurs petits objectifs pour y aller pas à pas, et pour pouvoir atteindre l'objectif principal. Donc en fait, il y a toute une méthode, hein, c'est très vaste, mais c'est vraiment très méthodique. Il faut respecter ça, sinon ça ne fonctionne pas, en fait. Voilà.
Alors, est-ce qu'on vient... pour ça, c'est déjà en place, on peut prendre rendez-vous avec vous, exposer son projet, il y a un entretien, comment ça se passe?
Oui, tout à fait. Alors, je suis joignable par téléphone. Et vous pouvez, donc c'est au 06 69 17 89 74. Et vous pouvez aussi donc regarder ma page Facebook pour ceux qui ont Facebook. Donc ma page au nom de Benjamin Bougis, préparateur mental. Donc il y a tous les éléments dessus, ma boîte mail aussi, mon adresse mail. Vous pouvez voir aussi quelques vidéos de mes projets parce que j'ai un YouTube aussi, Benjamin Bougis. C'est Ben to Fly, parapente et montagne, pardon. Et en fait, pour l'instant, je n'ai pas de site internet. Voilà, j'ai une page Facebook, je fonctionne beaucoup avec. Et effectivement, vous pouvez avoir un objectif sportif, un gros objectif. Vous pouvez avoir des soucis de motivation. Ça peut être dans le travail, ça peut être aussi, vous pouvez être directeur d'une structure, d'une entreprise. Et puis, vous voulez que vos salariés soient vraiment plus dans le bien-être, etc. Donc, je peux faire des conférences, des formations d'environ 2 heures et demie, voilà. Donc, j'ai envie de dire, tout est possible, vraiment, en développement personnel ou en préparation mentale. C'est vraiment personnalisé, voilà.
Donc, Benjamin Bougis, préparateur mental, c'est votre page Facebook.
Voilà, oui.
On rappelle le numéro de téléphone, j'ai pris, mais vaguement.
Alors, 06 69... 17 89 74. Et c'est avec plaisir que je peux vous recevoir et vous renseigner. Voilà, en général, on commence par un entretien téléphonique, voilà, pour savoir si pour connaître un peu vos demandes. Et ensuite, on peut faire voilà un forfait de plusieurs séances, une seule séance, voilà, selon l'objectif, même si c'est pas un objectif, selon les choses à corriger, si c'est juste pour découvrir la préparation mentale. Donc je vais mettre aussi en place donc je pense, après mon défi, ça va se mettre en place dans l'automne, au courant de l'automne, des petits stages de préparation mentale. Donc je vais des stages d'une demi-journée, je pense. Donc je vais faire des stages préparation mentale spécifiques pour les pilotes de parapente, en fait. Et préparation mentale pour tout le monde, en fait, pour n'importe qui, même si on n'est pas sportif. Et parce que là, c'est vrai que je suis en ce moment beaucoup dans le parapente, je fais beaucoup de publicité sur le parapente, voilà, c'est par rapport aux défis, il y a aussi le vélo, la randonnée, mais c'est vraiment, on peut l'adapter à tous les sports, donc que ce soit la natation, le roller, le vélo, les sports collectifs, c'est vraiment la danse, et aussi pour le chant, pour les musiciens, pour les gens qui font de la scène, les comédiens, pour la gestion du stress, etc. C'est vraiment pour tout public. Voilà, je tiens à le préciser parce qu'on a tendance à croire que c'est que pour les sportifs de haut niveau, etc. Pas du tout. C'est aussi pour vous, pour votre bien-être, voilà, pour vous sentir bien. Et vraiment, on progresse tout le temps avec la préparation mentale. C'est vraiment, vraiment bénéfique. Voilà.
Benjamin Bouges, on fait une petite pause musicale, ouais. Et puis on se retrouve pour parler de votre grande traversée, votre projet qui va avoir lieu bientôt.
Oui, tout à fait, avec grand plaisir.
Alors on écoute The Lion's Roar.
Something that I
C'était First Aid Kit, The Lion's Roar. Vous êtes sur Fréquence Mistral et avec mon invité Benjamin Bougis, préparateur mental et sportif. Donc on est au milieu de cette émission. On vient de parler de votre parcours, Benjamin, et bien sûr ce projet de traverser des Hautes-Alpes en parapente, vélo de route et...
Et randonnée.
Si vous me coupez le micro.
C'est pas sympa ça.
C'est pas sympa. Parapente, vélo de route et randonnée. En fait, c'est plutôt rando-vol parapente, donc la randonnée et juste la descente en parapente. Et donc, j'ai choisi quelques sommets et de faire les jonctions à vélo. Voilà, hein. Il n'y a rien de motorisé. Je traverse intégralement les Hautes-Alpes. En gros, je fais une diagonale du nord-est au sud-ouest.
Voilà. Alors c'est vous qui avez fait cet itinéraire, ça n'existe pas
Non, alors y a traverser des Alpes ou des Hautes-Alpes qui peut se faire en parapente, à vélo, etc. Il y a des itinéraires qui existent. Là non, je me suis fait ma propre ligne en fait, donc en évitant les écrins parce que c'est une vallée avec pas mal de glaciers, etc. En fait pour le vélo de route ça correspondait pas, donc je fais un petit crochet par le sud. Mais en gros ça me fait vraiment une diagonale en partant du Mont Tabor, donc à la frontière avec la Savoie. Et pour finir jusqu'à Ribier, au-dessus de Sisteron, en passant par donc en fait le projet c'est de l'idée m'est venue parce que j'ai toujours des petites idées originales comme ça et je voulais le faire à la base avec un ami que je salue, un ami d'Annecy, un ancien Dinois, Guillaume Pratt, qui pratique les mêmes sports que moi. Donc c'était un de mes poulains justement que j'accompagnais au début en parapente et on voulait le faire tous les deux. Malheureusement on n'a pas eu de disponibilité ensemble entre les enfants, le travail, etc. Donc j'ai finalement décidé de le faire tout seul. J'ai quand même proposé à Stéphane Brognard, l'ultra trailer vosgien dont je vous parlais, de m'accompagner. Bon, seulement il est en train de préparer le record du monde de dénivelé en 24 heures donc en trail, donc à pied. Donc il était pris, etc. Il habite loin. Bon, mais sinon je lui avais proposé, ça aurait été sympa. Donc je me suis dit que j'allais le faire tout seul. Donc en fait c'est de partir du pied du Mont Tabor que je vais aller repérer avec ma chérie dans pas longtemps pendant les vacances. Ce sommet-là je le connais pas. Donc monter en randonnée à peu près 1500 mètres de dénivelé positif, décoller du Mont Tabor jusqu'à mon vélo qui m'attendra au pied du Mont Tabor, et ensuite partir pour donc chaque jour à peu près 75 km à vélo. Voilà, donc descendre par Briançon, etc., Savine-le-Lac, bivouaquer, donc ça sera normalement selon comment j'arrive à avancer, selon si j'ai crevé un pneu ou pas, selon la météo, dormir donc vers Savine-le-Lac, remonter ensuite dans le Champsaur, donc toujours à vélo le lendemain, gravir le sommet du Vieux Chaillol, donc le Vieux Chaillol, pour y décoller le lendemain matin, jusqu'à mon vélo. Et ensuite, reprendre le vélo. Donc là, j'aurais passé le col de Mans, donc un vélo, un col. Et ensuite, passer le col du Noyer pour retomber dans le Dévoluy, de l'autre côté, voilà, à vélo. Et ensuite, gravir le pic de Bure en randonnée, faire un vol depuis le pic de Bure le lendemain, jusqu'à mon vélo et finir par 76 km pour redescendre le restant des Hautes-Alpes jusqu'à Ribier à vélo. Donc j'essaie de me mettre un objectif de 72 heures, ce qui n'est pas une mince affaire. Et puis après, tout dépendra de la météo. Voilà, j'ai prévu une date selon mes disponibilités en fait. Et puis on verra bien, voilà, on verra bien comment ça va se jouer. Donc peut-être que par rapport aux nuages ou au vent, je ne pourrai pas faire tous les vols. Peut-être que je ne pourrais pas faire les randonnées si vraiment ça devient trop dangereux, s'il pleut trop, etc. Donc j'ai toujours un plan B, un plan C, un plan D, un plan E. Et peut-être que ça se soldera que par du vélo, donc j'espère pas. Mais tout est prévu en fait, et si tout va bien, je réussirai à tout faire en 72 heures. Déjà, à tout finir, c'est bien, et puis... En 72 heures, c'est mieux.
Donc, ça demande quand même une grosse préparation aussi, donc logistique et mentale, bien sûr.
Et alors, mental, physique, logistique, oui. Alors, je suis en plein dedans. Hein, j'arrête pas de... Là, en physique et en mental, on peut dire que je suis au point. Hein, déjà, j'avais un niveau qui était assez correct pour ce défi. Et c'est sûr que je m'entraîne au maximum pour... pour moins souffrir au moment venu. Donc j'aurai ma copine qui m'aidera donc pour la logistique. Alors je voulais faire au début vraiment tout seul, dormir juste dans mon duvet, etc. Donc je vais essayer de faire les bivouacs le moins en altitude possible, parce que fin septembre il va commencer à faire froid, il commence déjà à faire vraiment froid en montagne. Donc c'est faisable, vu que ma copine avait des disponibilités. Donc juste pour les nuits, je pense qu'elle me prépara un bon petit repas chaud, et puis elle me prépara un matelas avec le duvet, voilà. Comme ça les quelques heures où je me reposerai, je serai un peu plus dans le confort pour pouvoir continuer après. Mais sinon, réellement, on n'a pas besoin de logistique. C'est pour ça que j'ai choisi de faire juste les descentes en parapente jusqu'à mon vélo, pour pas demander à des personnes de me récupérer à tel ou tel endroit. Voilà. En préparation physique et mentale, donc j'ai fait, il n'y a pas si longtemps que ça, il y a quelques jours, Digne-Laragne en aller-retour, donc 116 km à vélo, dont 30 km sous la pluie qui tombait. Et donc en fait, c'est peut-être pas extraordinaire si on est cycliste. Moi, je suis pas cycliste à la base. Le vélo, ça fait pas longtemps que je m'y suis mis. Et c'est vrai que ça me plaît beaucoup. Donc j'essaie de me dépasser, de faire des sorties de plus de 100 km, ou alors des sommets comme le col de la Bonnette que j'ai fait plusieurs fois, le col de Vars avec une soixantaine de kilomètres. J'essaie de me faire du dénivelé, vraiment de manger du vélo, quoi, du trail aussi, beaucoup de randovol, hein, quasiment tous les jours, le randovol au relais, au sommet de l'Andran à Digne, au Cousson. Donc vraiment je mets tout en œuvre pour que tout se passe bien et pour que j'ai vraiment la forme au moment du défi. Pour l'instant tout se passe bien.
Alors, oui, vous êtes fin prêt, bien qu'on ne peut pas prédire la météo à l'avance. Septembre, vous dites, c'est fin septembre, il commence à faire froid en montagne. Et qu'est-ce qui pourrait vous faire changer
Tout à fait. Bon, alors,
changer de plan en dernière minute, puisque...
Alors, il peut y avoir... il y en a moins fin septembre. Bon, à la base, je voulais faire ce projet l'été. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de chances d'avoir des orages le soir.
De risque,
déjà, il y a moins de risques, voilà, déjà, le fin septembre. Ça reste quand même un risque, voilà. Si on a beaucoup de nuages, etc., à moins de se faire aspirer dans un gros nuage sous la grêle, donc c'est pas très sympa. Donc voilà, donc selon le moment où je veux décoller, j'aurai, surtout si je veux tenir le défi en 72 heures, j'aurai, on va dire, quelques heures pour décoller à tel ou tel endroit, mais je pourrais pas attendre une journée sur le sommet, ça c'est certain. Donc par rapport aux nuages, par rapport à la pluie, parce qu'à la limite, si on a du petit crachin et qu'on est déjà en l'air, bon, ça peut faire, on peut descendre en parapente, mais après, quand il pleut vraiment beaucoup, donc là, on se met en danger, hein, c'est pas préconisé. Pour le vélo, je me suis dit qu'au final, il n'y a rien qui pourrait m'arrêter, parce que, à moins que ce soit de la grêle, mais ça va durer quelques minutes, je peux me protéger un petit peu. Donc le vélo, je pense que je ne vais pas être embêté. La randonnée, probablement pas. Par contre, c'est pour les vols, ou alors du vent fort, ou du vent vraiment mal orienté. Voilà. Donc c'est surtout le vent ou les nuages au niveau parapente, je pense, où il faudra faire attention. Et puis c'est la nature qui décide, et ça, je le saurai vraiment qu'au dernier moment, même si les prévisions, en avançant sur la date, on pourra un petit peu voir à quelle sauce je vais être mangé. On est vraiment tributaire de la météo.
Ça a un coût, tout ça, ces défis. Est-ce que vous avez des sponsors?
Alors, pour moi, oui, voilà, il est important d'en parler. Alors, pour moi, ça n'a pas de coût particulier, à part voilà, les barres céréales, etc., l'alimentaire. Mais par contre, je le fais au profit d'une association qui s'appelle Imagine for Margot. Donc voilà, j'ai mis le t-shirt aujourd'hui. Donc Imagine for Margot, qui est une association pour aider à la recherche contre le cancer des enfants, pour la recherche, le bien-être, etc. Donc il me tenait à cœur, en fait, de faire ça pour une association. À la base, j'avais prévu ce défi, voilà, c'était pour moi, comme je le fais très souvent. Et je me suis dit, bah là, c'est un défi un peu plus gros, est-ce qu'il serait pas bien, finalement, de le faire pour quelqu'un? Donc j'ai choisi cette association-là. Donc j'ai mis une cagnotte en ligne sur mon Facebook, Benjamin Bougis, préparateur mental. Et donc, pour l'instant, j'ai récolté 380 euros avec une douzaine de donateurs, ce qui est pas mal. Donc, je suis content. Donc si vous soutenez mon projet, en fait, mon défi, voilà, vous pouvez y contribuer en faisant un don. Ça peut être 10, 20, 50, 1000 euros si vous voulez. Voilà, si vous le désirez, vous pouvez aussi m'accompagner, en fait, donc en avançant dans le temps. Jour par jour, je pense que sur Facebook, normalement sur ma page, vous pourrez voir où est-ce que je me situe. Et si vous voulez m'accompagner en randonnée, en parapente, pourquoi pas, si vous êtes volant, ou aussi à vélo, m'accompagner sur quelques portions, etc., sur l'arrivée. Voilà, vous pouvez, en fait, c'est vraiment le défi du partage. J'ai envie de partager ça, donc moi, je vais me fixer un temps, etc. Mais si vous voulez, même si vous n'êtes pas très sportif, me suivre sur un petit moment, vous pourrez. Et j'ai envie de dire, pour ceux qui sont un peu moins sportifs, choisissez le dernier jour, parce que j'en aurai dans les jambes et j'avancerai peut-être un peu moins vite. Voilà. Mais c'est vraiment important. Voilà, je le fais pour cette association Imagine for Margot. Et je les remercie d'ailleurs, parce qu'ils m'ont fourni voilà, un t-shirt, un maillot de vélo. Ils ont mis en place la cagnotte. Donc à savoir que l'intégralité des dons leur sera reversée. Voilà, hein, moi je touche rien, je fais ça pour eux. Et c'est eux qui ont installé la cagnotte voilà, sur Alvarum, je crois, le site Alvarum. Vous pouvez le trouver sur ma page Facebook. Pardon.
D'accord. Donc, Benjamin Boujus, préparateur mental, avec nous sur Fréquence Mistral. Vous êtes donc prêt pour la grande traversée des Hautes-Alpes en 72 heures et en solitaire, qui donc, s'effectuera en randonnée, parapente et vélo de route.
Oui.
Vélo de route, c'est pas un VTT.
C'est pas un VTT, alors vélo de route, pourquoi? Tout simplement parce que j'ai pas de VTT, même si c'est très sympa.
C'est une bonne raison.
Voilà, j'ai un vélo de route, je m'y suis mis il y a pas longtemps, donc en fait, je peux vous expliquer pourquoi je m'y suis mis. J'habitais à Barcelonnette il y a pas si longtemps que ça, j'y ai habité quelques années. Et là, je suis de retour sur Digne depuis 2 mois. Et en fait, à Barcelonnette, en intersaison, en fait, quand c'est le printemps, on peut faire beaucoup de ski de randonnée parce que c'est au printemps, c'est la meilleure saison. Et moi, je suis pas passionné par le ski, en fait. J'avais tout misé sur le ski pour l'hiver, le printemps. Et en fait, c'est pas tellement mon sport. J'aime bien en faire de temps en temps. Donc, je me suis dit, il faut que je trouve quelque chose là-bas pour m'occuper parce que je fais du sport. Je fais du rando-vol, mais bon, à cette saison-là, donc si on va en montagne au-dessus de Barcelone, il y a encore pas mal de neige, etc. C'est pas pratique. On peut y aller en crampons, en raquettes selon les endroits, mais c'est pas tellement pratique pour voler en parapente. Et je voulais trouver un sport, en fait, un thème intermédiaire pour les intersaisons. Et je me suis dit, pourquoi pas le vélo de route? Ça a l'air assez sympa. Et en fait, j'ai vraiment accroché, voilà. Donc j'ai acheté un vélo de route d'occasion et puis je m'y suis mis. Et j'ai trouvé ça aussi passionnant que le parapente ou n'importe quel sport. Et du coup, je me suis dit, pour le défi, je vais peut-être faire ce qu'on appelle un combo, donc allier tous les sports. Donc quelques sports que je pratique, donc le rando-vol parapente que je pratique quasiment tous les jours. Et le vélo de route, je me suis dit, ça pourrait être sympa. Et je me suis dit, voilà, je ne fais pas de VTT. Juste par les routes, ça peut rallonger un peu le circuit. Donc, je me suis dit, je vais faire les déplacements en vélo de route. C'est vraiment pas mal. Voilà, et puis je vais corser un petit peu la chose en choisissant des sommets. Et puis voilà, le projet s'est monté comme ça.
Alors, qu'est-ce que j'ai oublié de vous poser comme question? Benjamin,
les prochains défis peut-être.
Ah ben voilà, et ben voilà.
Oui, c'est vrai que j'ai pas mal. On appelle ça des défis, des challenges, des projets, des objectifs.
Voilà, les objectifs.
Ouais. Donc c'est tout à fait. Donc j'en ai encore plus depuis que je suis préparateur mental parce que c'est nécessaire. Voilà, on veut toujours aller plus loin en toute sécurité bien sûr. Alors j'ai plein d'idées. J'ai envie de faire des défis qui sont un peu originaux, même si c'est sympa de re-suivre les traces ou les lignes de quelqu'un en parapente ou en randonnée, en traversée, etc. J'ai envie d'ajouter ma petite touche personnelle à chaque fois, de faire des lignes qui ont du sens. Voilà, là, c'était à traverser des Hautes-Alpes. En fait, à la base, je voudrais reparler de ce défi-là, je voulais faire ça dans le 04. Alors, je voulais faire, je ne sais pas, un petit tour, une petite traversée dans le 04, mais je ne savais pas vraiment. Mais c'est vrai que je connais beaucoup, beaucoup de sommets dans le 04, en rando-vol. Et mon ami Guigui, qui devait participer avec moi à la base, me dit, non, pourquoi tu ne choisis pas le 05? On connaît moins le 05, c'est vrai qu'on a fait moins de sommets là, etc. Et je lui dis, c'est pas bête. Donc c'est pour ça que j'avais choisi le 05. Donc je choisis aussi quelque chose qui n'est pas très loin, voilà. Donc au niveau écologique, etc., c'est mieux. Voilà, là, il n'y a rien de motorisé. Bon, à part, il faudra que je prenne la voiture pour aller au Mont-Tabor pour le départ. Mais sinon, je tenais à faire ça. C'est vraiment avoir une empreinte carbone qui est très belle. Et donc, je me suis dit, qu'est-ce que je pourrais faire dans le coin, plus ou moins dans la région, ensuite. Alors, j'ai quelques petites idées. Je n'ai pas encore les dates et tout, mais je commence déjà à y penser. Je vais me pencher sur le sujet après la traversée. Donc, je pense que ce sera un tour des Alpes de Haute-Provence ou pourquoi pas un tour de la région PACA, donc en bikepacking, ce qu'on appelle le bikepacking. Donc, en fait, c'est un sport qui devient à la mode depuis, j'ai envie de dire, 2 ans, donc que je ne connaissais pas il y a 8 mois encore. Et en fait, donc c'est du vélo de route ou du gravel, c'est-à-dire avec des pneus un peu plus de VTC, voilà, un peu plus tout-terrain. Et en fait, avec des sacoches, mais vous savez, pas les grosses sacoches de part et d'autre des roues, voilà, des sacoches en général sur le cadre ou sous la selle, pour partir vraiment en minimaliste et pour partir en bivouac ou dormir chez des gens même. En quelques jours, il y a des compétitions de bikepacking maintenant, donc ils font à peu près 1000 km en 4 jours, etc., avec des points GPS, voilà, des balises à relier. Donc dans les projets, j'aimerais bien faire un bikepacking, voilà, un tour du 04 ou la région PACA, je verrai en quelques jours, voilà. Donc c'est l'ultra distance, hein, c'est des étapes parfois de 100 voire 200 km par jour, ça dépend du niveau. Donc moi, les 200 pour l'instant, c'est clairement pas mon niveau, on verra plus tard. Mais j'aimerais bien faire ça, et dans mes objectifs, donc j'aimerais participer au Biking Man France, donc qui est une nouvelle compétition, je crois qu'il y a eu une édition, et en gros on part de la Côte d'Azur et on traverse toutes les Alpes, donc j'aimerais bien participer à cette compétition en bikepacking, donc progresser à vélo là, cette année, en attendant faire peut-être un tour du 04 ou de la région PACA, quelque chose comme ça, mais je vais trouver pareil, une ligne qui a du sens, quelque chose qui me parle. Voilà, peut-être au profit d'une autre association, qui sait. Et ensuite, dans les autres objectifs, ça sera peut-être une traversée en trail, par exemple. Mais c'est vrai que j'ai tellement d'idées, etc., que j'arrête pas de changer d'avis. Donc peut-être que ce sera tout à fait autre chose. Et peut-être pour un autre projet, encore quelque chose en montagne. Donc j'avais un petit projet dans le coin de ma tête que je dévoile pas encore. Ça serait de décoller d'un sommet vraiment engagé, d'un sommet à plus de 4000 mètres aussi. Ça a déjà été fait plusieurs fois en parapente, mais peut-être 5 fois maximum. Et en fait, de monter ce sommet-là en alpinisme, mais il faut que je reprenne mes marques en alpinisme et que je progresse. Voilà, donc j'ai pas mal de projets en tête. Et ce qui est sûr, c'est que je vous en parlerai et puis je le mettrai sur mon site, sur ma page Facebook.
Benjamin Bougis, est-ce que vous allez partir avec une GoPro sur...
Oui.
Pour filmer ce parcours que vous allez faire, cette traversée des Hautes-Alpes?
Alors tout à fait, je vais essayer de filmer. Comme je le faisais souvent, là j'étais en rade de caméra, donc c'est bon, je vais en retrouver une. Et donc je vais partir avec une GoPro, effectivement. Je vais essayer de filmer des pas mal de portions, hein, donc les portions en vol, c'est toujours magnifique. Surtout pour les personnes qui volent pas, on a vraiment on découvre une autre dimension du paysage. Là, ça va être des Hautes-Alpes vues du ciel, vues de la route, c'est plus urbain, voilà. En randonnée aussi, et je me fais des petits montages vidéo, donc je ferai, ça c'est certain, un petit montage vidéo du parcours, voilà, de ce défi que je partagerai évidemment sur YouTube et sur ma page Facebook, en remerciant tous les donateurs et tous les participants, tous ceux qui m'ont aidé. C'est évident, et je vais essayer de faire une belle vidéo tout en musique, oui.
Est-ce que tout est dit? J'avais envie de faire quelques dédicaces.
Je crois que tout est dit, oui, des dédicaces. Donc j'ai fait des dédicaces pour mes filles tout à l'heure. Je le fais aussi pour ma chérie Nanouk, donc qui va me faire la logistique, qui va m'aider. Pour ma mère qui me soutient aussi beaucoup. Pour Guillaume qui devait participer à ce défi, et aussi à Stéphane Brognard, s'il m'entend, parce qu'en fait c'est grâce à lui que je me suis mis, il le sait pas, mais grâce à lui que je me suis mis à la préparation mentale. C'est quelqu'un qui a quand même une influence sur moi, donc je dirais pas que c'est mon idole, j'ai pas vraiment d'idole, mais c'est vrai que c'est quelqu'un qui est motivant en fait, et qui a plein de projets de défis sportifs un peu comme ça, donc lui c'est encore un autre niveau, hein. Et vraiment, je tenais à le remercier également.
Merci Benjamin pour ce zoom sur vos activités sportives et humaines et humanitaires avec cette association. Donc on redonne le nom de l'association.
Donc c'est Imagine for Margot. Voilà. Alors vous pouvez les trouver sur internet facilement, et il y a aussi le calendrier en fait de tous les événements. Donc ils organisent souvent la course contre le cancer, etc. Il y a d'autres personnes qui participent à leurs défis, des défis en trail, etc. Pour cette association, vous pouvez trouver mon défi sur leur calendrier, d'ailleurs, ce qui est affiché sur le site. Donc voilà, la traversée, c'est du 28 septembre au 1er octobre, voilà, entre ces dates-là. Je partirai le 28 septembre, en début d'après-midi, je pense. Et donc cette association, vous pouvez la trouver sur Internet, Imagine for Margot, et puis je les remercie pour leur attention et vraiment pour l'organisation, la logistique, etc. Parce qu'ils ont fait beaucoup pour me fournir des vêtements, tout ça, et pour m'aider dans mon projet aussi.
Benjamin Bougis, merci. Est-ce qu'on peut vous dire bon vent pour cette...
Et oui, merci, bon vent, mais pas de trop, parce que sinon, ça ne le fera pas.
Et oui. Merci, au revoir.
Merci à vous, au revoir.
À bientôt. Je rappelle que cette émission sera rediffusée sur notre site, sera mise en ligne sur notre site www.fréquencemistral.com, onglet de Digne-les-Bains dans nos émissions. Au revoir, Benjamin, et à très bientôt.
Au revoir, merci.